Périgord littéraire, une émission présentée par Pierre Mancien.
Bonjour à tous et à toutes. Comme la semaine dernière, nous allons rendre une petite visite à nos voisins corréziens en ravivant la mémoire de Marguerite Priolot. Alors je rappellerai qu'elle est née en 1890 à Brive, où son père était médecin et passionné de langue régionale. Il sera le mécène d'auteurs en occitan. Sa mère Thérèse d'Artensec, originaire de Vanzac-sur-Verne, d'accord, donc en Dordogne, sera pendant une quinzaine d'années reine des faits libres Limousin. Marguerite succédera à sa mère avant de devenir reine du Philibrige en 1913. Alors cette même année, 1913, dans le cadre d'une collecte sur les langues régionales, sa voix sera enregistrée par le linguiste Ferdinand Bruno. On peut écouter d'ailleurs ses enregistrements sur Gallica, tout simplement. Alors en 1913, une année faste hein, pour Marguerite, de retour du Midi, le président Raymond Poincaré fera une halte à Brive. À cette occasion, elle sera du cortège officiel. Alors, c'est aussi une patriote dévouée. Lors de la Première Guerre mondiale, elle s'engage aux côtés de la Croix-Rouge. Et pour soutenir l'œuvre de la guerre et de bienfaisance, des pièces de monnaie en carton seront éditées à son effigie par l'Union commerciale de Brive. En 1915, elle fait paraître à l'Occitan, avec traduction française, des gens de Limousine, puis en 1916, Comte du Marguillier, qui ne seront pas réédités. Je pense peut-être que je ne sais pas pourquoi, mais enfin, peut-être que l'humour du début du siècle dernier n'est peut-être plus tout à fait le même qu'aujourd'hui. Enfin, c'est dommage que ce ne soit pas réédité. Alors donc, les couvertures de ces deux livres seront dessinées par le critique, peintre et historien d'art Édouard Gaillot, qu'elle épousera le 29 mars 1917. Le mariage aura lieu à Périgueux. Le couple aura trois enfants et ils séjourneront à Lyon et à Nice, puis ils s'installent dans la maison familiale périgourdine. Alors, Marguerite décède en 1955, elle sera inhumée à Manzac-sur-Verne, dans le caveau familial. Alors, une cérémonie du souvenir aura lieu, alors plus près de nous, là, en 2019, en présence du capoulier du Philibrige, de nombreuses personnalités occitanes et de sa descendance. Alors, de ces deux ouvrages, nous avons vu l'histoire de l'ail de Pérounet, extraite des contes du Marguillier. Et cette semaine, dans Les gens de Limousine, nous allons évoquer la fileuse de Jumillac, qui met en scène de Troubadour, Giraud, de Puissibaud. Alors, donc, bien sûr, la fileuse de Jumillac est une personnalité aussi de la Dordogne. C'est connu. Alors, voici ce qu'elle nous dit donc de cette fileuse et de l'imposant Barbichet. Alors, imposant avec ses 10 tours fuselées, ses fenêtres délicatement sculptées, ses girouettes bizarres, le château de Jumillac se dresse sur une hauteur solitaire, entourée de forêts et de collines. Dans la vallée étroite, une rivière lisse coule capricieusement, bordée de prairies vertes et fleuries. Autant jadis demeurait dans le château une jeune fille brune et douce, aux yeux sombres, barbe de Jumillac. Elle était la plus avenante, la plus accomplie de toutes les châtelaines du pays. Aussi, le plus réputé des troubadours de la contrée, Gobert de Puissibaud, s'en était-il épris. Passionné par la chasse, le chanteur passait ses journées à court le gibier. Mais quand le soleil se couche, chaque soir, il allait retrouver l'aimée et chanter pour elle ses meilleurs poèmes. Et par un beau soir de printemps, Gobert s'attarda à la chasse et la nuit était déjà venue quand il suivit de nouveau la vallée pour entrer au château. La lune était déjà venue et blanchissait donc les prés fleuris et le chanteur cheminait sous les saules qui bordent la rivière. Le silence nocturne n'était troublé que par le ruissellement de l'eau sur les cailloux. Gobert venait de franchir la haie quand il s'arrêta émerveillé sur la prairie. Une blanche apparition dansait en rond, la robe légère s'enroulait sur le corps délicat, en suivant tous ses gracieux mouvements. Sur la fine tête brune était posé un léger voile de dentelle, emprisonnant les cheveux à la façon d'une coiffe. Agitée par la danse, la dentelle voletait autour du joli visage, tantôt l'enveloppant, comme pour en dérober la vue, tantôt palpitant comme les ailes d'un papillon qui va se poser sur une fleur. Le jeune homme ne pouvait se lasser d'admirer la fine tête si étrangement coiffée. Tout ému, il s'avança vers la vision, la danseuse poussa un cri. Mais Gobert, tendant les bras vers elle, s'écria « Reste, qui que tu sois, ton esprit ou ton corps, reste, je t'en prie, laisse-moi admirer ton beau visage et ta coiffe charmante. Qu'en es-tu, toi qui ne ressembles à aucune femme. Souriante, la dame s'approcha et parla, je suis la dernière fée du pays. Mes sœurs se sont envolées vers le ciel bleu et moi j'attends, dansant, le moment qui verra se terminer l'enchantement qui me retient sur terre. Autrefois, nous vivions toutes heureuses parmi les humbles bergers. C'étaient nos amis. Ils nous respectaient et nous aimaient. Et nous étions toujours prêtes à leur venir en aide. Hélas, un jour, les hommes devenus méchants se sont battus pour le partage des terres, le plus fort vaincu, le plus faible, et l'a soumis. Hier terminé, les vainqueurs, maîtres du pays, ont voulu porter leur main brutale sur les fées mystérieuses. La hache et la charrue ont violé nos retraites profondes, et les fées ont disparu devant l'envahisseur. Seul je suis resté parce que je suis la fée qui danse au clair de lune dans les lieux déserts, loin des profanes humains. J'aimais les fleurs que la bourrée fait épanouir sur les joues des jeunes filles et des chansons que la joie fait jaillir de leur cœur. Mais j'ai dû fuir les hommes et me retirer dans la solitude de ces bois. Fée merveilleuse, s'écria le poète, je ne suis pas semblable aux autres hommes. Si tu veux, je serai ton chevalier servant, toujours respectueux, toujours fidèle. « Je ne te ferai jamais de peine, je te le promets. »« Hélas, ami, ma destinée est écrite, ainsi que la tienne, je le sais. »« Je t'attendais, c'est toi qui vas briser les chaînes qui m'attachent encore à cette terre et m'ouvrir le chemin qui conduit à l'azur étoilé. »« Je regretterai cette belle contrée, mes danses solitaires au cœur de lune, mais je suis heureuse de penser que le jour est proche et que je dois aller retrouver mes sœurs. » L'exil va finir. Écoute-moi, je connais l'avenir. Chaque soir comme aujourd'hui, tu viendras me regarder silencieux et troublé. Puis par un beau soir d'été, quand l'air sera plus tiède, le mot qui doit briser l'enchantement montera peu à peu à tes lèvres. Le charme détruit, je m'envolerai dans un rayon de lune. Mais je te laisserai un don, un souvenir de la fée qui dansait au clair de lune. Quand je t'aurai quitté, ton baiser fera renaître en ton aimé tout ce qui te plaît à moi. Et quand tu enlaceras ta mie, il te semblera que ta fée entre tes bras. Et à ces mots, ben, la bison s'éloigna. Elle reprit sa danse dans la prairie et peu à peu disparut sous les châtaigniers en fleurs. Ivre de jeunesse et d'amour, Gobert rentra à Jumillac, mais depuis ce jour, il délaissa sa mie. L'esprit plein de sa fée, il chassait toute la journée, à la tombée de la nuit, il se hâtait d'aller la retrouver en s'asseyant dans l'herbe et la contemplait silencieux et troublé. Cependant, Barbe Jumillac languissait et se désolait. Elle se demandait pour quelle raison Gobert la fuyait toujours, pourquoi accourt le gibier et rêvait à la lune. Il ne voyait donc pas combien sa mie était triste. Interrogé tendrement, Gobert laissa échapper une partie de son secret. L'œil perdu comme dans un rêve, il contant ce qui lui était arrivé dans la prairie. Avec une inconsciente cruauté, décrivit la danse ailée au clair de lune, les charmes du jeune corps, la grâce du vêtement et de la légère coiffure de la fée. Les barbes, le cœur meurtri, demandaient toujours de nouveaux détails sur la coiffe mystérieuse qui semblait avoir ensorcelé son amoureux. Dès que Gobert fut parti, la pauvre délaissée s'enferma dans la plus haute tour du château et se mit à filer. Sans arrêt, le fuseau tourné dans sa main, jamais lasse, assise près de la fenêtre, elle ne s'arrêtait que si l'aboiement des chiens l'avertissait que son ami passait. Elle le suivait des yeux en pleurant, puis reprenait son travail. Rien ne pouvait la distraire de sa tâche, et si quelqu'un s'hasardait à lui demander pourquoi t'enfiler, elle répondait d'une voix mourante, « C'est pour m'en laisser seul. » Et le fuseau tournait sans cesse en roulant le mince fil de lin. Un jour vint cependant, où satisfaite de son travail, la fileuse s'arrêta. Sur le métier, elle ourdit une trame fine comme une toile d'araignée. Ses mains agiles parsemèrent le tissu de délicates broderies et de légères dentelles. Et après de longs jours de travail, un beau soir d'été, Barbe Jumillac, émue de crainte et d'espoir, posa sur sa tête charmante une coiffe toute semblable à celle qu'avait rêvé le poète, le voile même de la fée des prairies. Ce soir-là, l'air était lourd de parfums, la brise soufflait doucement et le chanteur, éperdu d'amour, regardait sa fée. Enfin, n'y tenant plus, comme la danseuse s'approchait de lui, se pencha vers elle et murmura « Je t'aime ». Aussitôt, la vision s'évanouit et le poète ne vit plus qu'un pâle rayon de lune qui glissait lentement dans la prairie. Désespéré, Gobert se mit à courir comme un fou. Sa course errante le ramenait en face de Jumillac et, levant les yeux sur la plus haute tour du château, Il crut voir palpiter sous la brise la coiffe blanche de son rêve. Alors, il se rappela la promesse de la fée. Le cœur battant, le troubadour revint au château, au galop, et monta l'escalier de pierre et entra dans la cour. En le voyant, Barbe se leva, pâle et tremblante, Gobert s'était arrêté et la contemplait comme elle était belle. Comment avait-il pu l'oublier ? Et mettant genoux en terre, il baisa la main fine, mais Barbe le releva, et se blottissant sur la poitrine de l'aimé, appuya sa tête à son épaule. Gobert caressait les cheveux sombres, puis peu à peu, il approcha sa bouche du front pur. Pleurant de joie, la jeune fille se détourna lentement et parut aussitôt voilée d'une admirable coiffe en dentelle, la coiffème de la fée qui dansait dans la prairie au clair de lune. La douce vision tenait sa parole. Maintenant, rien ne manquait à Barbe de Jumillac et Gobert comprenait combien c'est folie de courir après un rêve quand la réalité est si proche et si belle. En se promenant avec sa mie dans la prairie, les nuits d'été, Gobert de Puissibaud lui conta tout au long l'histoire de la dernière fée. Alors Barbe lui apprit comment, dans un élan d'amour, elle avait réalisé de sa propre main le rêve de son poète. Et le galant troubadour en fit une chanson dans laquelle il célébra la coiffe aux blanches ailes que, du nom de sa mie, il nomma Barbichet. Depuis ce jour, les limousines prirent le voile de la fée pour en faire leur coiffe habituelle. C'est ainsi que le souvenir de la gracieuse apparition est toujours demeuré vivant. Si vous passez quelques jours à Jumillac, chacun pourra vous parler de la fileuse et vous montrer la chambre où elle s'enfermait et le fuseau abandonné. Même les mauvaises langues ne se feront pas faute de vous conter que si la dame du château fila si longtemps, c'était de désespoir d'être séparée de son amoureux par un mari jaloux. N'en croyez rien. Regardez plutôt les barbichets qui s'épanouissent sur toutes les têtes, jeunes ou vieilles. Et sûrement vous penserez avec moi que la dernière fée a bien vécu dans les bois du château et que les limousines aujourd'hui sont mêlées des vrais enfants de leur aïeul en barbichet et donc de la fileuse de Jumillac. Alors voilà la légende, enfin une des légendes du fameux barbichet et bien sûr Jumillac le Grand, comme je peux dire étant tout à fait limitrophe de la Haute-Vienne, évidemment la coiffe et le barbichet. Alors Barbe, bon, on va revenir un peu, Barbe n'est plus actuellement un prénom féminin usité, mais cette Barbe qui signifie étrangère en latin est la patronne des artilleurs, des artificiers et des pompiers qui l'honore le 4 décembre. Alors sur la légende, en 306, de notre ère, refusant d'abdiquer la religion chrétienne, Barbe sera martyrisée puis décapitée par son père. Mais son père m'a lui en pris de son geste parce qu'il sera foudroyé sur le champ. Alors bien sûr, on peut retrouver le prénom de Barbe dans Barbara, tout simplement, Barbara Sedgwick, ou d'autres Barbara. Alors pour ma part, moi j'avais une grand-tante qui s'appelait Barberine. Et Barberine est un prénom dérivé de Barbe, alors était corse. Hein. Donc, moi, j'ai toujours connu Barberine. Je ne sais pas s'il avait un autre prénom, mais c'était Barberine. Alors, dans cet ouvrage, pour en venir à lui, en plus de la filage de Jumillac, figurent des histoires qui ont pour titre la Louve de Combonne, la Rose de Montal, la Coble de Domard, la Dame Blanche de Trignac, la Meunière de Port-Roudal, les Larmes de Marguerite d'Aubusson, le bijou d'Aloïse de Rochechouart, la Dame Verte de Collonges, les Lions de Bonneval. Et bien sûr, beaucoup de ces noms seront familiers à nos deux auditeurs, qu'ils soient Périgordais ou Limousins. Alors, quant à Jumillac, Jumillac le Grand, limitrophe de la Haute-Vienne, il est intégré dans le parc naturel régional Périgord-Limousin. Le jeune roi y sera percepteur et s'y mariera civilement, bien sûr, selon ses convictions républicaines. Fernand Dupuis, auteur de l'Albine, est natif de Jumillac. Je l'ai rencontré pour ma part. Il y a quelque temps, a choisi le roi au cours d'une manifestation commémorative concernant Rouget de Lisle, auteur de la Marseillaise. Et puis, bien sûr, il y a un détail important. Jumillac le Grand, mais ma foi, c'est le pays des chercheurs d'or dans les ruisseaux et dans l'Isle. Alors, je ne connais pas exactement la bibliographie concernant Jumillac le Grand, mais je voudrais signaler un article de Pierre Ortega, une recherche de l'extrême, l'ordre de Grandmont, de prieuré de la Faille à Jumillac le Grand. D'ailleurs, cet article est apparu dans le bulletin de la Société historique et archéologique du Périgord en 2002. Alors, et puis, il y a aussi une monographie des villes et des cantons de La Noaille et de Jumiac-le-Grand par Henri Ribaud de Logardier. Alors, ça a été un peu plus... Cela est un peu plus ancien, voilà. Mais je crois que mon temps de parole est achevé. Mais je vous souhaite une bonne journée. N'ayez pas trop froid, hein, par cette froide journée d'hiver. Et puis, ben, à la semaine prochaine.
C'était Périgord littéraire, une émission présentée par Pierre Martial.